Que philosopher, c'est apprendre à mourir. Chapitre 19. Cicéron dit que philosopher, ce n'est autre chose que s'apprêter à la mort. C'est d'autant que l'étude et la contemplation retirent quelque peu notre âme hors de nous et l'embesognent à part du corps, qui est quelque apprentissage et ressemblance de la mort, ou bien c'est que toute la sagesse et discours du monde se résout enfin à ce point de nous apprendre à ne craindre point à mourir. De vrai, où la raison se moque, où elle ne doit viser qu'à notre contentement, et tout son travail tendre, en somme, à nous faire bien vivre et à notre aise, comme dit la Sainte Écriture. Toutes les opinions du monde en sont là, que le plaisir est notre but, quoiqu'elles en prennent divers moyens, autrement on les chasserait d'arriver. Car qui écouterait celui qui, pour sa fin, établirait notre peine et mésaise? Les dissensions des sectes philosophiques, en ce cas, sont verbales. Laissons ces fort ingénieuses fadaises. Il y a plus d'opiniâtreté et de picoterie qu'il n'appartient à une si sainte profession. Mais quelques personnages que l'homme entreprenne, il joue toujours le sien parmi. Quoi qu'il dise, en la vertu même, le dernier but de notre visée, c'est la volupté. Il me plaît de battre leurs oreilles de ce mot qui leur est si fort à contre-cœur. Et s'il signifie quelque suprême plaisir et excessif contentement, il est mieux dû à l'assistance de la vertu qu'à nulle autre assistance. Cette volupté, pour être plus gaillarde, nerveuse, robuste, virile, n'en est que plus sérieusement voluptueuse. Et lui devions donner le nom du plaisir, plus favorable, plus doux et naturel, non celui de la vigueur, duquel nous l'avons dénommé. Cette autre volupté plus basse, si elle méritait ce beau nom, se devait être en concurrence, non par privilège. Je la trouve moins pure d'incommodité et de traverse que n'est la vertu. Outre que son goût est plus momentané, fluide et caduque, elle a ses veilles, ses jeûnes et ses travaux, et la sueur et le sang. Et en outre particulièrement ses passions tranchantes de tant de sortes, et à son côté, une satiété si lourde qu'elle équipole la pénitence. Nous avons grand tort d'estimer que ces incommodités lui servent d'aiguillon et de condiment à sa douceur, comme en nature le contraire se vivifie par son contraire, et de dire, quand nous venons à la vertu, que pareilles suites et difficultés l'accablent, la rendent austère et inaccessible. Là où, beaucoup plus proprement qu'à la volupté, elles anoblissent, aiguisent et rehaussent le plaisir divin et parfait qu'elles nous moyennent. Celui-là est certes bien indigne de son accointance qui contrepèse son coup à son fruit et n'en connaît ni les grâces ni l'usage. Ceux qui nous vont instruisant que sa quête est scabreuse et laborieuse, sa jouissance agréable, que nous disent-ils par là sinon qu'elle est toujours désagréable? Car quel moyen humain arriva jamais à sa jouissance? Les plus parfaits se sont bien contentés d'y aspirer et de l'approcher sans la posséder. Mais ils se trompent, vu que de tous les plaisirs que nous connaissons, la poursuite même en est plaisante. L'entreprise se sent de la qualité de la chose qu'elle regarde, car c'est une bonne portion de l'effet et consubstantielle. L'heure et la béatitude qui reluit en la vertu remplit toutes ses appartenances et avenues jusqu'à la première entrée et extrême barrière. Or, des principaux bienfaits de la vertu, c'est le mépris de la mort, moyen qui fournit notre vie d'une molle tranquillité et nous en donne le goût pur et aimable, sans qui toute autre volupté est éteinte. Voilà pourquoi toutes les règles se rencontrent et conviennent à cet article. Et combien qu'elles nous conduisent aussi, toutes d'un commun accord, à mépriser la douleur, la pauvreté et autres accidents, à quoi la vie humaine est sujette. Ce n'est pas d'un pareil soin. Tant parce que ces accidents ne sont pas de telle nécessité, la plupart des hommes passent leur vie sans goûter de la pauvreté, et tels encore sans sentiment de douleur et de maladie, comme Xénophilus le musicien qui vécut 100 et 6 ans d'une entière santé, qu'aussi d'autant qu'au pis-aller, la mort peut mettre fin quand il nous plaira et couper court à tous autres inconvénients. Mais quant à la mort, elle est inévitable. Tous, nous sommes poussés vers le même point, pour tous est agitée l'urne fatale, tôt ou tard en sortira notre billet qui nous embarquera pour l'éternel exil. Et par conséquent, si elle nous fait peur, c'est un sujet continuel de tourment et qui ne se peut aucunement soulager. Il n'est lieu d'où elle ne nous vienne. Nous pouvons tourner sans cesse la tête çà et là, comme en pays suspect. Elle est toujours suspendue au-dessus de nous, comme le rocher au-dessus de Tantale. Nos parlements renvoient souvent exécuter les criminels au lieu où le crime est commis. Durant le chemin, promenez-les par de belles maisons, faites-leur tant de bonne chère qu'il vous plaira. Les festins siciliens ne leur ménageront pas leur douce saveur, les chants des oiseaux et de la cithare ne leur ramèneront pas le sommeil. Pensez-vous qu'ils s'en puissent réjouir, et que la finale intention de leur voyage, leur étant ordinairement devant les yeux, ne leur ait altéré et affadi le goût à toutes ces commodités? Ils s'enquièrent de la route, ils comptent les jours, ils mesurent sa vie à la longueur des chemins, il est torturé par le mal à venir. Le but de notre carrière, c'est la mort. C'est l'objet nécessaire de notre visée. Si elle nous effraie, comment est-il possible d'aller un pas avant, sans fièvre? Le remède du vulgaire, c'est de n'y penser pas. Mais de quelle brutale stupidité lui peut venir un si grossier aveuglement? Il lui faut faire brider l'âne par la queue. Lui qui veut marcher la tête tournée en arrière. Ce n'est pas de merveille s'il est si souvent pris au piège. On fait peur à nos gens seulement de nommer la mort, et la plupart s'en signent, comme du nom du diable. Et parce qu'il s'en fait mention au testament, ne vous attendez pas qu'ils y mettent la main, que le médecin ne leur ait donné l'extrême sentence. Et Dieu sait lors, entre la douleur et la frayeur, de quel bon jugement ils vous le pâtissent. Parce que cette syllabe frappait trop rudement leurs oreilles et que cette voix leur semblait malencontreuse, les Romains avaient appris de l'amollir ou l'étendre en périphrase. Au lieu de dire « il est mort », « il a cessé de vivre », disent-ils. « Il a vécu ». Pourvu que ce soit vie, soit-elle passée, il se console. Nous en avons emprunté notre feu maître Jean. À l'aventure, est-ce que, comme on dit, le terme vaut l'argent? Je naquis entre 11h et midi le dernier jour de février 1533, comme nous comptons à 7h, commençant l'an en janvier. Il n'y a justement que 15 jours que j'ai franchi 39 ans. Il m'en faut pour le moins encore autant. Cependant, s'empêcher du pansement de choses si éloignées, ce serait folie. Mais quoi? Les jeunes et les vieux laissent la vie de même condition. Nul n'en sort autrement que si tout présentement il y entrait, joint qu'il n'est homme si décrépit, tant qu'il voit Mathusalem devant, qui ne pense avoir encore 20 ans dans le corps. Davantage, pauvre fou que tu es, qui t'a établi les termes de ta vie? Tu te fondes sur les comptes des médecins? Regarde plutôt les faits et l'expérience. Par le commun train des choses, tu vis Piessa par faveur extraordinaire. Tu as passé les termes accoutumés de vivre, et qu'il soit ainsi, compte de tes connaissants combien il en est mort avant ton âge, plus qu'il n'en y a qui l'ait atteint, et de ceux-mêmes qui ont ennobli leur vie par renommée, fais-en registre, et j'entrerai en gageure d'en trouver plus qui sont morts avant qu'après 35 ans. Il est plein de raisons et de piété de prendre exemple de l'humanité même de Jésus-Christ. Or, il finit sa vie à 33 ans. Le plus grand homme, simplement homme, Alexandre, mourut aussi à ce terme. Combien à la mort de façon de surprise? Ce qu'on a à éviter, jamais on ne s'y est, heure après heure, assez préparé. Je laisse à part les fièvres et les pleurésies. Qui eût jamais pensé qu'un duc de Bretagne dût être étouffé de la presse, comme fut celui-là à l'entrée du pape Clément, mon voisin, à Lyon? N'as-tu pas vu tuer un de nos rois en se jouant? Et un de ses ancêtres, mourut-il pas choqué par un pourceau? Échille, menacé de la chute d'une maison, a beau se tenir en alerte, le voilà assommé d'un toit de tortue qui échappa des pattes d'un aigle en l'air, l'autre mourut d'un grain de raisin, un empereur de l'égratignure d'un peigne en se testonnant, à Aemilius Lepidus pour avoir heurté du pied contre le seuil de son nuit, et Aufidius pour avoir choqué en entrant contre la porte de la chambre du conseil. Et entre les cuisses des femmes, Cornelius Gallus prêteur, Tigillinus capitaine du guet à Rome, Ludovic, fils de Guy de Gonzague, marquis de Mantoue. Et d'un encore pire exemple, Speusippe, philosophe platonicien, est l'un de nos papes. Le pauvre Bébius juge cependant qu'il donne délai de huitaine à une partie, le voilà saisi, le sien de vivre étant expiré. Et Caius Julius, médecin graissant les yeux d'un patient, voilà la mort qui clôt les siens. Et s'il m'y faut mêler, un mien frère, le capitaine Saint-Martin, âgé de 23 ans, qui avait déjà fait assez bonne preuve de sa valeur, jouant à la paume, reçut un coup d'étoffe, qui l'asséna un peu au-dessus de l'oreille droite, sans aucune apparence de contusion ni de blessure. Il ne s'en assit ni reposa, mais 5 ou 6 heures après, il mourut d'une apoplexie que ce coup lui causa. Ces exemples si fréquents et si ordinaires nous passant devant les yeux, comment est-il possible qu'on se puisse défaire du pansement de la mort et qu'à chaque instant, il ne nous semble qu'elle nous tienne au collet? Qu'importe-t-il, me direz-vous, comment que ce soit, pourvu qu'on ne s'en donne point de peine? Je suis de cet avis, et en quelque manière qu'on se puisse mettre à l'abri des coups, fût-ce sous la peau d'un veau, je ne suis pas homme qui recula, car il me suffit de passer à mon aise, et le meilleur jeu que je me puisse donner, je le prends, si peu glorieux au reste et exemplaire que vous voudrez. J'aimerais mieux passer pour fou ou incapable, du moment que mes défauts me plaisent, ou à tout le moins m'échappent, que d'être sage et d'enragé. Mais c'est folie d'y penser arriver par là. Ils vont, ils viennent, ils trottent, ils dansent, de mort, nulle nouvelle. Tout cela est beau. Mais aussi quand elle arrive, ou à eux, ou à leurs femmes, enfants et amis, les surprenant en désordre et au découvert, quel tourment, quel cri, quelle rage et quel désespoir les accablent. Vites-vous jamais rien si rabaissé, si changé, si confus? Il y faut pourvoir de meilleures heures. Et cette nonchalance bestiale, quand elle pourrait loger en la tête d'un homme d'entendement, ce que je trouve entièrement impossible, nous vend trop cher ses denrées. Si c'était ennemi qui se put éviter, je conseillerais d'emprunter les armes de la couardise. Mais puisqu'il ne se peut, puisqu'il vous attrape, fuyant et poltron, aussi bien qu'honnête homme, assurément, il poursuit le fuyard sans épargner pour autant les jarrets et le dos apeuré d'une jeunesse non aguerrie. Et que nulle trempe de cuirasse vous couvre. Il a beau se défiant du fer, s'enfermer dans les reins, la mort en extraira sa tête ainsi remparée. Apprenons à le soutenir de pied ferme et à le combattre. Et pour commencer à lui ôter son plus grand avantage contre nous, prenons voie toute contraire à la commune. Ôtons-lui l'étrangeté, pratiquons-le, accoutumons-le, n'ayons rien si souvent en la tête que la mort, à tous instants représentons-la à notre imagination et en tout visage. Au broncher d'un cheval, à la chute d'une tuile, à la moindre piqûre d'épingle, remâchons soudain, eh bien, quand ce serait la mort même? Et là-dessus, raidissons-nous et nous efforçons. Parmi les fêtes et la joie, ayons toujours ce refrain de la souvenance de notre condition, et ne nous laissons pas si fort emporter au plaisir que parfois il ne nous repasse en la mémoire en combien de sortes cette nôtre allégresse est en butte à la mort et de combien de prises elle la menace. Ainsi faisaient les Égyptiens qui, au milieu de leurs festins et parmi leurs meilleures chairs, faisait apporter l'anatomie sèche d'un homme pour servir d'avertissement aux conviés. Dis-toi de chaque jour qu'il est pour toi le dernier à luire. Bienvenue sera l'heure de surcroît sur laquelle tu ne compteras pas. Il est incertain où la mort nous attende. Attendons-la partout. La préméditation de la mort est préméditation de la liberté. Qui a appris à mourir, il a désappris à servir. Il n'y a rien de mal en la vie pour celui qui a bien compris que la privation de la vie n'est pas mal. Le savoir mourir nous affranchit de toute suggestion et contrainte. Paul-Émile répondit à celui que ce misérable roi de Macédoine, son prisonnier, lui envoyait pour le prier de ne le mener pas en son triomphe, qu'il en fasse la requête à soi-même. À la vérité, en toute chose, si nature ne prête un peu, il est malaisé que l'art et l'industrie aillent guère avant. Je suis de moi-même non mélancolique, mais songe creux. Il n'est rien de quoi je me sois, depuis toujours, plus entretenu que des imaginations de la mort, voire en la saison la plus licencieuse de mon âge. Lorsque ma vie en fleurs passait son gai printemps. Parmi les dames et les jeux, telle me pensait empêcher à digérer à part moi quelque jalousie ou l'incertitude de quelque espérance, cependant que je m'entretenais de je ne sais qui, surpris les jours précédents d'une fièvre chaude et de sa fin au partir d'une fête pareille, et la tête pleine d'oisiveté, d'amour et de bon temps, comme moi, et qu'autant m'en pendait à l'oreille. Bientôt ce temps sera passé, et plus jamais on ne pourra le rappeler. Je ne ridais non plus le front de ce pansement-là que d'un autre. Il est impossible que d'arriver nous ne sentions des piqûres, de telles imaginations. Mais en les maniant et repassant, au long aller, on les apprivoise sans doute. Autrement, de ma part, je fusse en continuelle frayeur et frénésie, car jamais homme ne se défia tant de sa vie, jamais homme ne fit moins d'état de sa durée. Ni la santé, que j'ai jouie jusqu'à présent très vigoureuse et peu souvent interrompue, ne m'en allonge l'espérance, ni les maladies ne me la courcissent. À chaque minute, il me semble que je m'échappe, et me rechante sans cesse « Tout ce qui peut être fait un autre jour, le peut être aujourd'hui. » De vrai, les hasards et dangers nous approchent peu ou rien de notre fin. Et si nous pensons combien il en reste, sans cet accident qui semble nous menacer le plus, de millions d'autres sur nos têtes, nous trouverons que gaillards et fiévreux, en la mer et en nos maisons, en la bataille et en repos, elle nous est également prête. Nul n'est plus fragile que l'autre. Nul n'est plus assuré de ce qu'il sera demain. Ce que j'ai à faire avant mourir, pour l'achever tout loisir, me semble court, fût-ce d'une heure. Quelqu'un, feuilletant l'autre jour mes tablettes, trouva un mémoire de quelque chose que je voulais être faite après ma mort. Je lui dis, comme il était vrai, que n'étant qu'à une lieue de ma maison, et sain et gaillard, je m'étais hâté de l'écrire là parce que je n'étais point assuré d'arriver jusque chez moi. Comme celui qui continuellement me couvre de mes pensées et les couche en moi, je suis à toute heure préparé environ ce que je le puis être, et ne m'avertira de rien de nouveau la survenance de la mort. Il faut être toujours botté et prêt à partir, en tant qu'en nous est, et surtout se garder qu'on ait l'or à faire qu'à soi. Pourquoi, en cette courte vie, lancer hardiment 1000 projets ? Car nous y aurons assez de besogne, sans autre surcroît. L'un se plaint, plus que de la mort, de quoi lui rompt le train d'une belle victoire, l'autre qu'il lui faut déloger avant qu'avoir marié sa fille, ou contrôler l'institution de ses enfants, l'un plaint la compagnie de sa femme, l'autre de son fils, comme commodité principale de son être. Je suis pour cette heure en tel état, Dieu merci, que je puis déloger quand il lui plaira sans regret de chose quelconque. Je me dénoue partout. Mes adieux sont tantôt pris de chacun, sauf de moi. Jamais homme ne se prépara à quitter le monde plus purement et pleinement, et ne s'en déprit plus universellement que je m'attends de faire. Les plus mortes morts sont les plus saines. Malheureux, ah malheureux, disent-ils, un seul jour ennemi m'enlève tous ces bienfaits de la vie. Et le bâtisseur, voilà que demeurent interrompus les travaux et les murailles de taille redoutable. Il ne faut rien dessiner de si longue haleine, ou au moins avec telle intention de se passionner pour en voir la fin. Nous sommes nés pour agir. Quand je mourrai, puissais-je être détruit en pleine action. Je veux qu'on agisse et qu'on allonge les offices de la vie tant qu'on peut, et que la mort me trouve plantant mes choux, mais nonchalant d'elle, et encore plus de mon jardin imparfait. J'en vis mourir un qui, étant à l'extrémité, se plaignait incessamment de quoi sa destinée coupait le fil de l'histoire qu'il avait en main, sur le 15e ou 16e de nos rois. En cette affaire, on n'ajoute pas cette réflexion. Et le regret de ses biens ne te demeurera pas davantage. Il faut se décharger de ces humeurs vulgaires et nuisibles. Tout ainsi qu'on a planté nos cimetières joignant les églises, et aux lieux les plus fréquentés de la ville, pour accoutumer, disait Lycurgue, le bas populaire, les femmes et les enfants à ne s'effaroucher point de voir un homme mort, et afin que ce continuel spectacle d'ossements, de tombeaux et de convois nous avertisse de notre condition. Bien plus, les hommes avaient jadis coutume d'égayer les banquets par des meurtres et de mêler au repas les cruels spectacles de joutes à l'épée, dont les combattants souvent tombaient jusque sur les coupes, inondant sans mesure les tables de leur sang. Et comme les Égyptiens, après leur festin, faisaient présenter aux assistants une grande image de la mort, par un qui leur criait « Bois, et t'es joui, car mort tu seras-t-elle » Aussi ai-je pris en coutume d'avoir non seulement en l'imagination, mais continuellement la mort en la bouche. Et n'est rien de quoi je m'informe si volontiers que de la mort des hommes. Quelle parole, quel visage, quelle contenance ils y ont eu, ni en droit des histoires, que je remarque si attentivement. Il y paraît à la farcissure de mes exemples, et que j'ai en particulière affection cette matière. Si j'étais faiseur de livres, je ferais un registre commenté des morts diverses, qui apprendraient les hommes à mourir, leur apprendraient à vivre. Dicéarque en fit un de pareil titre, mais à d'autres et moins utiles fins. On me dira que les faits surmontent de si loin la pensée qu'il n'y a si belle escrime qui ne se perde quand on en vient là. Laissez-les dire. Le prémédité donne sans doute grand avantage. Et puis n'est-ce rien d'aller au moins jusque-là sans altération et sans fièvre? Il y a plus. Nature même nous prête la main et nous donne courage. Si c'est une mort courte et violente, nous n'avons pas loisir de la craindre. Si elle est autre, je m'aperçois qu'à mesure que je m'engage dans la maladie, j'entre naturellement en quelque dédain de la vie. Je trouve que j'ai bien plus affaire à digérer cette résolution de mourir quand je suis en santé que je n'ai quand je suis en fièvre, d'autant que je ne tiens plus si fort aux commodités de la vie, à raison que je commence à en perdre l'usage et le plaisir, j'en vois la mort d'une vue beaucoup moins effrayée. Cela me fait espérer que plus je m'éloignerai de celle-là et approcherai de cette-ci, plus aisément j'entrerai en composition de leur échange. Tout ainsi que j'ai essayé, en plusieurs autres occurrences, ce que dit César, que les choses nous paraissent souvent plus grandes de loin que de près. J'ai trouvé que, sain, j'avais eu les maladies beaucoup plus en horreur que lorsque je les ai senties. L'allégresse où je suis, le plaisir et la force, me font paraître l'autre état si disproportionné à celui-là que par imagination je grossis ces incommodités de la moitié et les conçois plus pesantes que je ne les trouve quand je les ai sur les épaules. J'espère qu'il m'en adviendra ainsi de la mort. Voyons à ces mutations et déclinaisons ordinaires que nous souffrons comme nature nous dérobe la vue de notre perte et empirement. Que reste-t-il à un vieillard de la vigueur de sa jeunesse et de sa vie passée? Hélas, quelle part de vie reste au vieillard? César a un soldat de sa garde recru et cassé qui vint en la rue lui demander congé de se faire mourir, regardant son maintien décrépit, répondit plaisamment « Tu penses donc être en vie ?» Qui y tomberait tout à un coup ? Je ne crois pas que nous fussions capables de porter un tel changement, mais conduit par sa main, d'une douce pente et comme insensible, peu à peu, de degré en degré, elle nous roule dans ce misérable état et nous y apprivoise. De sorte que nous ne sentons aucune secousse quand la jeunesse meurt en nous, qui est en essence et en vérité une mort plus dure que n'est la mort entière d'une vie languissante et que n'est la mort de la vieillesse. D'autant que le sceau n'est pas si lourd du mal-être au non-être, comme il est d'un être doux et fleurissant à un être pénible et douloureux. Le corps courbe et plié a moins de force à soutenir un fait, aussi à notre âme. Il la faut dresser et élever contre l'effort de cet adversaire. Car comme il est impossible qu'elle se mette en repos pendant qu'elle le craint, si elle s'en assure aussi, elle se peut vanter, qui est chose comme surpassant l'humaine condition, qu'il est impossible que l'inquiétude, le tourment et la peur, non le moindre des plaisirs, logent en elle. Ne l'ébranle dans sa fermeté d'âme, ni les regards d'un tyran menaçant, ni l'OTAN, roi des tempêtes qui agite l'Adriatique, ni le bras puissant de Jupiter armé de sa foudre. Elle est rendue maîtresse de ses passions et concupiscences, maîtresse de l'indulgence, de la honte, de la pauvreté et de toute autre injure de fortune. Gagnons cet avantage qui pourra. C'est ici la vraie et souveraine liberté qui nous donne de quoi faire la figue à la force et à l'injustice et nous moquer des prisons et des fers. Je te tiendrai menotté et entravé sous la garde d'un cruel geôlier. Quand je le voudrais, le Dieu en personne me délivrera. Je crois qu'il entend par là « je mourrai ». La mort est l'universelle ligne d'arrivée. Notre religion n'a point eu de plus assuré fondement humain que le mépris de la vie. Non seulement le discours de la raison nous y appelle, car pourquoi craindrions-nous de perdre une chose laquelle perdue ne peut être regrettée ? Mais aussi, puisque nous sommes menacés de tant de façons de mort, n'y a-t-il pas plus de mal à les craindre toutes qu'à en soutenir une ? Que chaut-il quand ce soit, puisqu'elle est inévitable ? À celui qui disait à Socrate « Les 30 tyrans t'ont condamné à la mort, et nature, eux, répondit-il. Quelle sottise de nous peiner sur le point du passage à l'exemption de toute peine. Comme notre naissance nous apporta la naissance de toute chose, aussi fera la mort de toute chose notre mort. Par quoi c'est pareille folie de pleurer de ce que d'ici à 100 ans nous ne vivrons pas que de pleurer de ce que nous ne vivions pas il y a 100 ans. La mort est origine d'une autre vie. Ainsi pleurâmes-nous. Et ainsi nous coûta-t-il d'entrer en cette-ci. Ainsi nous dépouillâmes-nous de notre ancien voile en y entrant. Rien ne peut être pénible, qui n'est qu'une fois. Est-ce raison de craindre si longtemps, chose de si bref temps? Le longtemps vivre et le peu de temps vivre est rendu tout un par la mort. Car le long et le court n'est point aux choses qui ne sont plus. Aristote dit qu'il y a des petites bêtes sur la rivière Hypanis qui ne vivent qu'un jour. Celle qui meurt à 8 heures du matin, elle meurt en jeunesse. Celle qui meurt à 5 heures du soir, meurt en sa décrépitude. Qui de nous ne se moque de voir mettre en considération d'heure ou de malheur ce moment de durée? Le plus et le moins en la nôtre, si nous la comparons à l'éternité, ou encore à la durée des montagnes, des rivières, des étoiles, des arbres et même de quelques animaux, n'est pas moins ridicule. Mais nature nous y force. « Sortez, dit-elle, de ce monde, comme vous y êtes entrés. le même passage que vous fîtes de la mort à la vie, sans passion et sans frayeur, refaites-le de la vie à la mort. Votre mort est une des pièces de l'ordre de l'univers. C'est une pièce de la vie du monde. Les mortels s'échangent mutuellement la vie et, comme des coureurs, s'en transmettent le flambeau. Changerais-je pas pour vous cette belle contexture des choses? C'est la condition de votre création. C'est une partie de vous que la mort. Vous vous fuyez vous-même. Ce tuit votre être que vous jouissez est également parti à la mort et à la vie. Le premier jour de votre naissance vous achemine à mourir comme à vivre. La première heure qui nous a donné la vie l'a entamée. En naissant, nous mourrons, et la fin dépend de l'origine. Tout ce que vous vivez, vous le dérobez à la vie. C'est à ses dépens. Le continuel ouvrage de votre vie, c'est bâtir la mort. Vous êtes en la mort pendant que vous êtes en vie, car vous êtes après la mort quand vous n'êtes plus en vie. Ou, si vous l'aimez mieux ainsi, vous êtes mort après la vie, mais pendant la vie, vous êtes mourant. Et la mort touche bien plus rudement le mourant que le mort, et plus vivement et essentiellement. Si vous avez fait votre profit de la vie, vous en êtes repu. Allez-vous-en satisfait. Que ne te retires-tu en convive rassasié de la vie? Si vous n'en avez su user, si elle vous était inutile, que vous chaut-il de l'avoir perdue? À quoi faire la voulez-vous encore? Pourquoi chercher à lui ajouter encore un temps qui doit à son tour se perdre misérablement et s'évanouir tout entier sans plaisir? La vie n'est de soi ni bien ni mal. C'est la place du bien et du mal, selon que vous la leur faites. Et si vous avez vécu un jour, vous avez tout vu. Un jour est égal à toujours. Il n'y a point d'autre lumière, ni d'autre nuit. Ce soleil, cette lune, ces étoiles, cette disposition, c'est celle même que vos aïeux ont joui et qui entretiendra vos arrière-neveux. Vos pères n'en ont pas vu d'autres et vos petits-enfants n'en apercevront pas d'autres. Et au pis-aller, la distribution et la variété de tous les actes de ma comédie se parfournit en un an. Si vous avez pris garde aux branles de mes quatre saisons, elles embrassent l'enfance, l'adolescence, la virilité et la vieillesse du monde. Il a joué son jeu. Il n'y sait autre finesse que de recommencer. Ce sera toujours cela même. Nous tournons dans le même cercle où nous sommes à jamais enfermés. Et l'an s'enroule, repassant sur ses propres traces. Je ne suis pas délibéré de vous forger autre nouveau passe-temps. Car il n'est rien que je puisse encore fabriquer et inventer pour te plaire, tout est toujours pareil. Faites place aux autres, comme d'autres vous l'ont fait. L'égalité est la première pièce de l'équité. Qui se peut plaindre d'être compris où tous sont compris? Aussi avez-vous beau vivre, vous n'en rabattrez rien du temps que vous avez à être mort. C'est pour néant. Aussi longtemps serez-vous en cet état-là que vous craignez comme si vous étiez mort en nourrice. Tu peux bien vaincre les siècles en vivant ce que tu veux. La mort, pourtant, elle, n'en demeurera pas moins éternelle. Et ainsi je vous mettrai en tel point auquel vous n'aurez aucun mécontentement. Ne sais-tu pas que dans la vraie mort, il n'y aura nul autre toi-même qui puisse, vivant, te plaindre mort et, debout, te pleurer gisant? Ni ne désirerait la vie que vous plaignez tant. Et en fait, il n'est personne qui alors redemande son être et sa vie, et aucun regret de nous-mêmes ne nous touche. La mort est moins à craindre que rien, s'il y avait quelque chose de moins que rien. Il nous faut penser que la mort est bien moins encore pour nous, s'il peut y avoir moins que ce qui n'est rien à nos yeux. Elle ne nous concerne ni mort ni vif. Vif parce que vous êtes, mort parce que vous n'êtes plus. Davantage, nul ne meurt avant son heure. Ce que vous laissez de temps n'était non plus vôtre que celui qui s'est passé avant votre naissance, et ne vous touche non plus. Regarde, en effet, combien ne nous est rien la durée infinie du temps qui nous a précédés. Où que votre vie finisse, elle y est toute. L'utilité du vivre n'est pas en l'espace, elle est en l'usage. Tel a vécu longtemps qui a peu vécu. Attendez-vous-y pendant que vous y êtes. Il gît en votre volonté, non au nombre des ans, que vous ayez assez vécu. Pensiez-vous jamais n'arriver là, où vous alliez sans cesse? Encore n'y a-t-il chemin qui n'ait son issue. Et si la compagnie vous peut soulager, le monde ne va-t-il pas même train que vous allez? Toutes choses te suivront dans le trépas. Tout ne branle-t-il pas votre branle? Y a-t-il choses qui ne vieillissent avec vous? 1000 hommes, 1000 animaux et 1000 autres créatures meurent en ce même instant que vous mourrez. Car nulle nuit n'a succédé au jour, nulle aurore la nuit, sans entendre, mêlée au douloureux vagissement, les pleurs compagnons de la mort et des noires funérailles. À quoi faire y reculez-vous, si vous ne pouvez tirer arrière? Vous en avez assez vu qui se sont bien trouvés de mourir, évitant par là de grandes misères. Mais quelqu'un qui s'en soit mal trouvé, en avez-vous vu? Aussi est-ce grande simplesse de condamner choses que vous n'avez éprouvées ni par vous ni par autre. Pourquoi te plains-tu de moi et de la destinée? Te faisons-nous tort? Est-ce à toi de nous gouverner ou à nous, toi? Encore que ton âge ne soit pas achevé, ta vie l'est. Un petit homme est homme entier comme un grand. Ni les hommes ni leur vie ne se mesurent à l'aune. Chiron refusa l'immortalité, informé des conditions d'Icelle par le dieu même du temps et de la durée, Saturne, son père, imaginez de vrai combien serait une vie perdurable, moins supportable à l'homme et plus pénible que n'est la vie que je lui ai donnée. Si vous n'aviez la mort, vous me maudiriez sans cesse de vous en avoir privé. J'y ai à Essien mêlé quelque peu d'amertume pour vous empêcher, voyant la commodité de son usage, de l'embrasser trop avidement et indiscrètement, pour vous loger en cette modération, ni de fuir la vie, ni de refuir à la mort que je demande de vous, j'ai tempéré l'une et l'autre entre la douceur et l'aigreur. J'appris à Thalès, le premier de vos sages, que le vivre et le mourir étaient indifférents. Par où, à celui qui lui demanda pourquoi donc il ne mourait, il répondit très sagement « Pour ce qu'il est indifférent. L'eau, la terre, l'air et le feu, et autres membres de ce mien bâtiment, ne sont non plus instruments de ta vie qu'instruments de ta mort. Pourquoi crains-tu ton dernier jour? Il ne confère non plus à ta mort que chacun des autres. Le dernier pas ne fait pas la lassitude, il la déclare. Tous les jours vont à la mort, le dernier y arrive. » Voilà les bons avertissements de notre mère nature. Or j'ai pensé souvent d'où venait cela qu'aux guerres le visage de la mort, soit que nous la voyons en nous ou en autrui, nous semble sans comparaison moins effroyable qu'en nos maisons, autrement ce serait une armée de médecins et de pleurards, et elle étant toujours une, qu'il y ait toutefois beaucoup plus d'assurance parmi les gens de village et de basse condition qu'est-ce autre. Je crois à la vérité que ce sont ces mines et appareils effroyables, de quoi nous l'entourons, qui nous font plus peur qu'elle. Une toute nouvelle forme de vivre, les cris des mères, des femmes et des enfants, la visitation de personnes étonnées et transies, l'assistance d'un nombre de valets pâles et éplorés, une chambre sans jour, des cierges allumés, notre chevet assiégé de médecins et de prêcheurs, somme, toute horreur et tout effroi autour de nous. Nous voilà déjà ensevelis et enterré. Les enfants ont peur de leurs amis même quand ils les voient masqués. Aussi avons-nous. Il faut ôter le masque aussi bien des choses que des personnes. Ôté qu'il sera, nous ne trouverons au-dessous que cette même mort qu'un valet ou simple chambrière passèrent dernièrement sans peur. Heureuse la mort qui ôte le loisir, ose après de tel équipage.